Dubbing est devenu sans conteste le groupe le plus emblématique du reggae made in France. C'est avant tout par la scène que ces musiciens et chanteurs se sont imposés depuis 10 ans comme fer de lance de la scène française en apportant un vent de fraîcheur incontesté. Leur recette, mixant un sens de la mélodie inimitable et une éthique humaine portée par des textes sincères, leur a permis d'exporter leur reggae en dehors des frontières telles que le Portugal, l'Allemagne, l'Algérie, le Sénégal, le Canada ou encore la Colombie. Ils ont ainsi pu croiser le fer avec des artistes d'envergure internationale tels que Tikenja Fakoly, David Hines ou encore Tarus Riley. Naviguant entre reggae, dancehall, musique kabyle ou world music, le groupe est porté par la voix de Bouchecourt et Comelin, et leurs styles aussi différents que complémentaires permettent au groupe de chanter en français, en anglais ou encore en kabyle. Le message universel est clair, l'importance du métissage et le mélange des styles. Alors, donc en direct donc du festival Fête du Bruit à Landerneau pour cette troisième et dernière journée en compagnie de Comelin du groupe Dubbing. Alors première question, quel est ton ressenti avant de monter sur scène? Est-ce qu'il y a des petits rituels?
Écoute, nous, non, on n'a pas des vrais rituels bien marqués. Après, le seul truc, c'est de se retrouver, de se faire un petit moment ensemble, au calme. On est toujours tous éparpillés dans les festivals, à droite à gauche. Voilà, c'est le principal, c'est de se retrouver un petit moment ensemble, boire un petit verre et monter.
Vous sortez votre nouvel album So What. Est-ce que le titre de cet album, ça veut dire que vous avez renoncé ou vous avez arrêté de lutter?
Non, du tout, non, justement, en fait. C'est le titre. Bon, déjà, il va avec un morceau que les gens découvriront plus tard, donc ça sera plus explicite. Et en fait, ça va aussi avec la pochette. En fait, la pochette, on a recréé une sorte de mandala un peu indien. Sauf qu'à à base de symboles un peu tous négatifs de l'époque. Et en fait, c'est un album qu'on a composé dans une année très difficile. Autant que ce soit au niveau du terrorisme, que des migrants, etc. C'était une année, je pense, très dure, pas très joyeuse. Et c'est plus un constat à dire, et maintenant, so what, et quoi, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est un disque qui a vraiment cette couleur-là, c'est-à-dire qu'il y a ces deux facettes. Autant une facette, un constat assez amer d'une époque qui nous met en colère, qui nous attriste, etc. Et une autre facette où on a tous envie de rebondir et de trouver de l'espoir. Et de so what? Et maintenant, j'espère que la réponse, c'est on va essayer d'avancer ensemble et de trouver une voie plus positive à tout ça.
Vous avez sorti un premier extrait de cet album, c'est Triste Époque. Vous pouvez nous parler de ce morceau?
Justement, voilà, c'est ça. Ce morceau, ça avait été un lendemain. C'était le lendemain des attentats que j'ai lancé ce refrain et j'ai écrit ce morceau. Et voilà, c'est un morceau, c'est comme je te dis, c'est surtout le constat d'une époque. On ne voulait pas mettre un filtre là-dessus, garder cette colère telle qu'elle était, garder. La tristesse telle qu'elle était, tout en gardant le dernier refrain n'est pas le même, parce qu'il ouvre sur quelque chose de positif, quelque chose d'ouvert. Et on voulait aussi, deux semaines après, on a sorti un deuxième extrait, Grand Périple, qui était vraiment le contrepoids à ça, qui la réponse à ce moment-là, c'était justement un morceau très positif, très lumineux, pour faire montrer un peu ces deux facettes qu'on a tous, je pense que tous, le lendemain des événements comme ça, on a beaucoup de tristesse, beaucoup de colère en nous, beaucoup de peur. Et qu'on est quand même beaucoup à pas vouloir rester dans cette peur-là et à chercher quelque chose de positif, d'ensemble, de se rassurer avec ceux qui sont comme nous, qui ont envie d'autre chose, de se dire qu'on n'est pas qu'entouré de gens complètement malades. Voilà. Et donc ces deux morceaux, c'était pour mettre une ambiance très froide, très électro, avec une séquence, un morceau très chaleureux. C'était pour exprimer vraiment ces sentiments-là.
Rester sur ce morceau Triste Époque, il a fait l'objet d'un clip qui a fait 115 000 vues, il me semble, en deux jours. Comment vous avez vécu ce succès?
Écoute, nous, on est très contents, on est toujours étonnés. C'est quand même notre sixième album. Ça fait quand même quelques années qu'on est là et tu sais, on est toujours étonnés de voir que les gens, ils nous suivent toujours, ils ne nous lâchent pas et que voilà, les efforts qu'on a beaucoup travaillé sur notre projet, sur notre label, sur nos disques, sur nos compositions, ils payent. Voilà, ça nous a beaucoup touché de voir que les gens étaient au rendez-vous. Là, on doit être à 1 million de vues. Et c'est vrai que pour un groupe comme nous, on n'est pas sur Vevo, on n'est pas sur tous les gros circuits de réseaux de streaming, etc. Et pourtant, on arrive à surnager au-dessus de ça. Donc vraiment, très très fort. Mais on le sait à qui on le doit, vraiment, on le doit à notre public qui est vraiment fidèle et qui continue à propager les trucs.
Alors je veux revenir un petit peu sur le processus de création des jaquettes, notamment de vos différents albums, parce que je suis un grand fan du design de vos jaquettes, je trouve qu'elles sont super bien montées à chaque fois. Et je souhaitais savoir un petit peu, alors c'est vrai que la jaquette du dernier album, comme tu le disais à l'instant, ça représente donc l'assemblage d'armements, d'outils de consommation, de surveillance notamment, on y repère également une nature détruite. Je voulais savoir un petit peu qui avait eu l'idée de cette illustration et comment avait émergé cette idée. Est-ce que c'est plutôt une contribution peut-être individuelle ou plutôt un aspect collectif par rapport au groupe?
Non, en fait, c'est tout simplement, c'est sympa que tu remarques le travail qu'il y a sur les pochettes. On a la chance de travailler avec un artiste depuis notre deuxième disque. En fait, si à partir de Dans le décor, c'est lui. Et c'est un gars qui a vraiment progressé énormément en même temps que nous, le groupe montait. Et c'est un gars qui a eu une créativité, un certain goût, quoi, vraiment, qui a imprimé ça avec le groupe. Et donc chaque fois, comme pour Paradise, c'était un retour d'Amérique du Sénégal, il nous avait proposé ce bateau, il avait dit « j'adore cet objet, je vais en faire une photo », etc. Et on lui a fait confiance. Là, voilà, il est arrivé, il est dans son trip actuellement, c'est les logos, les petits logos, et c'est des choses comme ça. Et puis ça va... Ça nous a tout de suite plu, en fait. Voilà, on est dans une époque où tout fonctionne par logo, par symbole, signalétique, etc. L'oiseau Twitter, le F2, tu vois. Il y avait quelque chose qui parlait vraiment dans l'époque et qui allait vraiment dans la cohérence du projet. Comme je te parle depuis tout à l'heure, il y a deux faces à cet album. Et ben cette pochette, quand tu la vois de loin, elle paraît très douce, on dirait un mandala, etc. Et ensuite, quand tu t'y intéresses, en fait, tu vois qu'elle est composée que de choses très, très dures. Et voilà, ça nous plaisait vraiment. Non, c'est en tout cas, je suis content que tu remarques l'effort qui est fait. C'est un gars qui s'appelle Fabien, sa boîte elle s'appelle 642 maintenant. Et c'est, voilà, c'est de loin un des artistes graphistes.
En tout cas, vous le faites bien circuler sur la toile et notamment sur votre site où on voit la présentation en 40-50 secondes de l'assemblage. Donc du coup, ça donne aussi une belle visibilité par rapport à ça.
Et du coup, cet album, vous l'avez financé de manière indépendante? C'est quelque chose... Vous y êtes attaché à cette indépendance?
Ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que de toute façon, nous l'indépendance, il faut bien savoir qu'au début, c'était même pas un choix. Hein. Je veux dire, on sait bien faire de la musique, on est d'une petite ville à Saint-Étienne où personne ne nous a tendu la main à aucun moment. Et puis de toute façon, nous, le principal, c'était jouer ensemble, faire des concerts et tout. Et on a appris les choses par nous-mêmes et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, les choses, chaque nouveau stade du groupe, on l'a affronté par nous-mêmes. C'est-à-dire que même quand on a étalé, on a pris des gens en plus, un régisseur en plus, etc. C'est des choses que chaque fois, c'est une décision qui est venue nous-mêmes aujourd'hui. Ça serait complètement hallucinant d'aller chez d'autres gens, leur demander de faire ce qu'on fait depuis des années, ce qu'on a appris à faire. Le faire sûrement moins bien, parce que les gars, ils ont des catalogues de gens. Et puis la vérité, c'est que de toute façon, ça n'intéresserait aucun. Maintenant, ce qu'on a construit, je vois pas qui pourrait nous l'offrir, même dans une majeure. Après, ce qu'ils pourraient nous offrir, oui, c'est la grosse machine promotionnelle, etc. Ce qui nous intéresse, mais pas du tout. La visibilité télé, etc. Donc, ce serait la seule chose au niveau professionnel qui s'amènerait.
Est-ce que tu crois, justement, est-ce que tu penses pas que la pression médiatique et une grosse labellisation des grandes maisons de disques, est-ce qu'elle ne limite pas parfois aussi les artistes dans leur liberté d'expression? Est-ce que faire la promotion d'une forme d'engagement, d'une forme de conscience un peu collective, est-ce que ça pose pas problème ça au niveau des grands médias? Qu'est-ce que tu en penses?
Quand tu vois comment est traité le reggae, alors que c'est un mouvement qui existe... Si on parlait de Lavilliers, Gainsbourg, etc., qui a été présent dans la chanson française, dans la musique en France depuis si longtemps, et quand tu vois l'exposition qu'elle a, je veux dire, à part s'il y a la guerre au Mali, on va l'interviewer Ticone, mais sinon, ça n'intéresse. C'est évident que dans le système médiatique tel qu'il est fait maintenant, il vaut mieux être un rappeur qui fait un tweet violent ou je ne sais quoi, qui va être repris 8 millions de fois, que dire un truc, que tout le monde va te dire, t'es démago, etc., tout le monde s'en fout, quoi. Donc de toute façon, oui, la machine médiatique ne s'intéresse pas du tout ni au reggae, ni à son message, etc. Et je pense que, ouais, dans un label... Après, l'histoire de label, pas label, ça dépend pour qui. Ça, je sais pas. Après, je pense qu'il y a des artistes qui ont des... c'est des majors qui arrivent à avoir une liberté de ton et qui peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous, c'est une évidence que... Nous, on est 7 musiciens, on fait 2 réunions par semaine, il y a les 7 musiciens. Parfois 6, tu vois, que ça soit de la pochette à où est-ce qu'on va enregistrer, si on achète une nouvelle machine pour le studio, etc., on est tous là. Donc, bien sûr que oui, dans une maison de disques, eux, ils font tout sans toi. Donc, ça serait complètement opposé à ce qu'on cherche. Mais pour répondre à ta question, c'est évident. Le système médiatique ne s'intéresse pas à ça.
Continue, ok. Est-ce qu'un engagement politique n'est-il pas tentant pour essayer de faire bouger les choses dans le bon sens ?
Oula, grand débat que tu lances. Je ne vais pas rentrer dans une trop longue réponse. Mais nous, en tout cas, ce n'est pas ce dont on parle. Nous, on n'est pas du tout un parti politique. On ne parle pas d'engagement politique. Nos engagements qu'on a de nos côtés, même qu'ils soient humanitaires, etc., on diffuse pas. On travaille avec beaucoup d'associations. On travaille sur trois projets, enfin, on fait des choses qu'on ne diffuse pas. Ça, c'est... Nous, on fait de la musique. Tu sais, je voudrais... dans nos textes, on ne fait pas un discours politique, on donne un point de vue. Voilà ce qu'on est, Hakim et moi. C'est le monde tel qu'on le ressent, si ça peut ouvrir. Mais malheureusement, on sait la limite qu'a la musique. Tu sais, Bob Marley continue à être un des 5 artistes qui vend le plus dans le monde et le monde ne change pas. Donc je sais très bien que... J'ai pas du tout la prétention de... Donc pour moi, la politique, c'est autre chose. C'est un autre débat. Ça m'intéresse beaucoup moins. Ça m'intéresse beaucoup moins que l'humain, que partager des valeurs, que diffuser quelque chose qui peut compter dans un moment donné sur le concert, qui peut unir les gens, mais la politique m'intéresse pas.
Jamais de tentative de récupération politique par un parti ou par un autre de votre musique ?
Ça, il faut... Nous, on est le groupe parfait pour jouer à une soirée du PC ou à une soirée PS, tu vois ce que je veux dire, le côté black blanc beurre. Donc on a déjà eu des propositions de concerts, de choses comme ça, mais rien qui nous a... En tout cas, on n'a jamais voulu s'affilier à quelque chose, parce que bon, tu sais l'utilisation que peut faire, même notre ville, hein, on est très très... on fait très attention à ce qu'on fait avec notre ville pour justement jamais être assimilé ou récupéré par le maire. Et sa tendance politique.
Les projets maintenant. Bon, les projets, donc il y a un album qui va sortir. Est-ce qu'on se projette déjà en 2017, en 2018 ? Est-ce qu'il y a déjà des petites idées comme ça ? Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût de ce qui pourrait peut-être se faire bientôt ?
2017, c'est déjà, on va dire, voilà, c'est la tournée. L'album sort en septembre. Ça commence très très fort à partir d'octobre. On joue dans tout. On fait une grosse tournée française qui va aller jusqu'à presque février, mars. Ensuite, on va rattaquer l'étranger, parce qu'on fait un tout petit peu d'étranger sur les festivals, bien sûr. Et voilà, on va rattaquer un peu l'Europe. Ça va prendre du temps. Donc je pense que voilà de quoi va être 2017. Et au niveau ensuite de sortie de disques, etc., nous, on a toujours cette tradition de faire une compile, on va dire un an après l'album, autour d'un des rythmes de l'album, autour des rencontres qu'on a pu faire, récupérer une instrumentale, sortir des choses comme ça.
Comme celle qui est sortie cet été, le Megamix ?
Non, pas comme celle qui est sortie cet été, comme ce qu'on a sorti l'année dernière, le They Want Rhythm. En fait, on a pris une instrumentale du groupe qu'on a diffusée à des Jamaïcains, des Américains. On a travaillé dessus avec eux et on a fait un disque autour de ça, une compilation. Donc voilà, il y a un peu des projets comme ça. Un album dub aussi, voilà. Voilà les surprises qui arrivent.
Justement, tu parlais des voyages. Vous avez voyagé avec Dubbing sur à peu près tous les continents du monde. Est-ce que justement, ce n'est pas une forme de cycle aussi quand on voyage, quand on part en tournée pour présenter un CD ? Est-ce que ce n'est pas aussi une source d'inspiration de voir ce qui se passe dans le pays, de se dire « Oh, on n'a pas fait ça, est-ce qu'on pourrait peut-être le traduire sur un prochain CD » Qu'est-ce que ça vous apporte, les voyages à l'étranger ?
Non, clairement, c'est chaque fois une... Voilà, le Hors Control, ça a été un album qui a été fait au retour de la Jamaïque. C'est un album très, très reggae classique. Sur Paradise, on parlait de l'accordéon, des choses comme ça. Voilà, on est allé jouer en Argentine, on a entendu beaucoup de cumbia. C'est un instrument qui nous a touchés. Notre pian, il joue de l'accordéon, on en a mis. On a mis de la mandole sur un disque parce que c'était aussi l'année où on est parti en Algérie, en Kabylie jouer. Voilà. Évidemment que c'est chaque fois des choses qui influencent beaucoup. Et puis humainement comme artistiquement.
Les projets cinématographiques en la personne de Bouchecourt sur une présentation du groupe.
Non, mais d'accord, mais c'est beaucoup plus,
alors c'est beaucoup plus ancien. Voilà, Rootboy Story.
Qui a maintenant quelques années. Hein. On avait été suivi par un vidéaste de 2006 à 2008-2009. Et justement, c'était tout le moment où le groupe commençait à un peu toucher des plus gros festivals, un peu s'étendre, un petit peu voyager. Et de notre rapport entre notre indépendance et, comme on parlait aussi des médias, etc., de comment on est arrivé dans ce milieu-là. Et c'est intéressant parce que voilà, c'est un film qui parle de l'indépendance, de ce que c'est que essayer de développer un groupe par soi-même. Voilà, mais c'est un, tu le trouves sur YouTube, on l'a mis en free sur YouTube en entier. Root Boy Story, voilà, voilà.
Une dernière question, puis après on te laissera tranquille pour aller te préparer pour le show de ce soir. La journée type de Comlan, du matin jusqu'au soir, ça se passe comment?
Ah, ça dépend.
Journée type.
Ça dépend, tu sais.
Tu peux parler au pluriel.
Si on n'est pas en, si on n'est pas en tournée, c'est une journée type assez qui ressemble à celle de tout le monde. J'ai des enfants, je les emmène à l'école, je vais les chercher. Et en tournée, ben voilà, c'est la vie de tournée, quoi. C'est le bus, trouver une douche, trouver sa chambre d'hôtel, monter sur scène, voilà.
Bon, ça va, faites du bruit, on est bien lotis.
Ouais, ouais, on est, ça va, tout va bien. Très bon accueil pour l'instant.
Merci beaucoup pour cette interview, Comlan, et bonne prestation pour ce soir.
J'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut.
C'est parfait, merci. Salut.
Face à l'adversité, si je reste, tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi. Mon identité grandit sans cesse, boum. J'attaque les envies de me voir quitter ce pays. J'attaque pour mes frères, la morale et nos vies. J'attaque comme le pensent les lois, j'attaque mensonge et mépris. J'attaque et dans ton tact, une putain d'ironie. J'traque ton discours, j'traque ton air fier. J'traque tous tes hommes quand ils renvoient les charters. Même les plus tranquilles deviennent vénères en temps de guerre. Give me the fire, hey oh, give me the fire, hey oh.
Ce qu'on fait, nos parents nous donnent le droit de ne pas douter de ce que l'on est, de ce qu'on fait là. Les valeurs se perdent, aucun hymne ne les ramènera. Mes couleurs ou drapeaux, car trois ne suffisent pas. On ne choisit pas où on n'est pas toujours où on va. Frères sans papier donnant leur au moins le choix. On dit même les hommes, certains deviennent des proies. On crée des lois pour ça.
Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme idole. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, ici je reste. Tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi. Mon identité grandit sans cesse.
Quand elle respecte ses fils et qu'elle nous considère, on reste droit, fier, nos racines, nos pères. Fruit d'une histoire commune, amour et haine vont de pair. Et ces trois couleurs sur le drapeau ne suffisent plus à colorer ce tableau de ce pays, de ce peuple aussi beau. L'identité ne se résume pas à un mot. C'est qu'on fait nos pères quitter au fur leur terre, changer l'hémisphère, car à tous c'est cette terre. L'adaptation à cette nation s'est faite à la sueur de leur front. Ici gagne une galère pour trouver des repères. Un climat délétère, aujourd'hui plus qu'hier. Tant de questions, de confusion. Être français n'est pas qu'une décision.
Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme idole. De plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, si je reste, tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi. Mon identité grandit sans cesse.
J'prends sur moi et mes écrits se précisent. Encore un texte qui dévoile vos faiblesses, faiblesses. Ce qui émane de vos dires blesses, en somme. Je les protège quand on touche au mien. Aussi étranger quand on me parle de noblesse, noblesse. Et toutes vos lois ne s'appliqueront à personne. Tu prends ce qui t'intéresse, l'immigration sélective. Tu chantes la Marseillaise comme une sanction punitive. Ton identité nationale reste encore une belle connerie. Bien plus qu'une alternative, c'est de nous prendre pour des idiots. Ta politique se cache derrière tes mots. C'est de nous prendre pour des idiots.